Alors, j'ai aujourd'hui un beau sujet, dans la mesure où il porte sur un roman que tout le monde connaît, Sans famille d'Hector Malou. Le livre est souriant, il se termine bien, peut-être trop bien. La fois prochaine, avant les vacances dites de février, alors je m'occuperai d'un tout autre livre, œuvre du reste d'un ami d'Hector Malou, de Jules Vallès, L'Enfant. Vous trouvez la trilogie de Vallès, L'Enfant, Le Bachelier, L'Insurgé, très bien édité dans la collection G.F. Flammarion. L'Enfant est un livre presque subversif qui peint un sujet diablement intéressant, celui de la mère indigne, la mère cruelle, atroce, qui persécute ses enfants, l'un de ses enfants. On retrouvera cela chez Jules Renard, avec Poil de Carotte. Madame Lepic, la mère du petit Poil de Carotte, est une femme atroce, avec ses enfants qu'elle élève horriblement mal, Poil de Carotte qu'elle martyrise, et son mari qu'elle terrorise. Si j'ai des garçons qui m'écoutent, messieurs, je vous en supplie, n'épousez pas une Madame Lepic. Trouvez autre chose, ou ne trouvez rien. Rien vaut mieux que Madame Lepic. Alors Hector Malou, c'est un écrivain qui est passablement décrié aujourd'hui, et du reste en son temps, parce qu'il eut un énorme succès populaire. Et comme vous savez, les gens de lettres, les gens sérieux, les académiciens, les critiques littéraires, détestent les écrivains qui ont un très très grand succès populaire. Ce fut le cas de Jules Verne, que tout le monde admirait, estimait, lisait, dévorait, et qui mit beaucoup de temps à obtenir une reconnaissance universitaire. La première thèse sur Jules Verne date en France des années 50. L'université ne voulait pas que l'on dépose un sujet de thèse sur Jules Verne, et elle a cédé parce qu'après-guerre, elle était passablement marxisée, et elle voyait bien que derrière le rideau de fer, notamment en Union soviétique, beaucoup d'universitaires consacraient leurs travaux à Jules Verne, écrivain. Alors, le côté, vous voyez, scientiste de Jules Verne avait tout pour séduire les marxistes-léninistes. Le progressisme de Jules Verne aussi les enchantait, son anticolonialisme. Mais ce sont les universités de derrière le rideau de fer qui ont libéré, au fond, Jules Verne de cette espèce de fâcheuse réputation d'écrivain facile, pour enfants, pour grand public, vulgaire, etc. Je ne vois pas que les choses aient beaucoup changé aujourd'hui. Dès qu'un romancier obtient des tirages fabuleux, l'université se recule, épouvantée, bouche son nez. Alors, c'était le cas d'Hector Malou. Quelques mots sur sa vie. Il naquit, aujourd'hui c'est le siège de l'association des amis d'Hector Malou. Elle existe. Et il y a un site bien fait sur Internet. Il naquit en 1830 à La Bouille. La Bouille, c'est en Seine-Maritime, c'est sur la Seine, sur la rive sud de la Seine, à l'ouest de Grand-Couronne et de Rouen. Son père était notaire, maire de son village, puis il termine sa carrière comme juge de paix, vous voyez, un notable. Le petit Hector, on le met pensionnaire au lycée Corneille à Rouen. Ce fut un élève très médiocre, rien ne l'intéressait que l'histoire. Pourquoi pas? Il vient à Paris en 1848 pour faire son droit. Il était fils de notaire, donc il pouvait succéder à son père. Mais le droit ne l'intéresse pas. Il mène un peu une vie de bohème, surtout une vie hantée par l'envie de réussir au théâtre. Alors, selon les époques, vous savez, c'était le genre littéraire qui confère la notoriété. Juste avant 1830, il fallait publier des recueils de vers. Sous la monarchie de Juillet, sous la Deuxième République, il fallait conquérir la notoriété au théâtre. Donc il décide, en 1853, sans se brouiller avec sa famille, de tenter de faire une carrière littéraire. Alors il s'essaie au théâtre, il écrit des drames qui n'ont pas de succès, qui ne sont pas joués, il publie des articles, il mène une vie un peu famélique, et il réussit à se lancer avec son premier roman, coup de chance, en 1859, c'était une trilogie intitulée « Victime d'amour », « victime » au pluriel, « victime d'amour ». En 1859, « Les amants », 1865, « Les époux », 1866, « Les enfants ». Il n'a pas osé transformer cela en tétralogie avec « Les petits-enfants » ou en bon, une série. Le public, le grand public, qui avait d'abord lieu ça en feuilleton dans la presse, où il s'était arraché des volumes, le public réserve un très très bon accueil à ses livres. Et à ce moment-là, Hector Malot se résout à n'être pas dramaturge, mais à être exclusivement romancier. À ceci près que, comme Flaubert, après que vous avez publié un roman, vous pouvez demander à des collaborateurs de tirer de votre roman une pièce de théâtre, comme Zola aussi, une pièce de théâtre qui aura du succès et qui ajoutera à vos droits d'auteur et qui vous permettra, écrivain tapis dans votre cabinet comme Flaubert, de vous lire un peu avec les comédiens et les comédiennes qui sont en train de répéter. C'était, n'est-ce pas, pour des gros travailleurs comme Zola ou comme Flaubert, c'était occasion de, si je puis dire, de sortir un peu de la cabinet de travail. Alors c'est ce que fit Hector Malot. Alors j'ai là, n'est-ce pas, la liste que j'ai trouvée sur Internet. Il a publié 70 romans. Je ne vais pas vous lire les 70 titres. Les Amours de Jacques, Romain Calbris, que j'ai lu quand j'étais jeune. Je n'en garde aucun souvenir. Je n'ai pas souvenir que c'était ennuyeux. Un beau-frère, La Bonne Affaire, Miss Clifton, Un curé de province, Un mariage sous le Second Empire, La belle Madame Denis, Clotilde Martory, Une belle-mère, Le mariage de Juliette, Le mari de Charlotte, La fille de la comédienne, L'héritage d'Arthur, L'auberge du monde, La marquise de Lucivière, Ida et Carmelita, la jolie prénom de fille, Les batailles du mariage, en 1877. Et à l'intérieur des batailles du mariage, vous trouvez une nouvelle intitulée Un bon jeune homme. La bohème tapageuse, Une femme d'argent, Séduction, Les millions honteux, La petite sœur, Paulette, Les besogneux, Micheline, Le sang bleu, en 1881, je ne l'ai pas lu, Pompon. Pompon doit être le surnom d'une femme de mauvaise vie, etc., etc. Une production surabondante. Ayant acquis quelques aisances financières, il s'installe, il vivra toute sa vie à Fontenay-sous-Bois. Il fait un mariage très bourgeois, qui forma un excellent ménage. Il a une fille, Lucie, son épouse meurt, et après un délai très raisonnable, il se remarie en 81, et il aura une deuxième fille, prénommée Périne. À la fin de sa vie, il publie, comme tant d'écrivains de cette époque, le roman de mes romans, qui est une autobiographie, au reste assez modeste. Il ne se vante pas d'avoir gagné beaucoup d'argent, mais d'avoir du génie, et vous trouvez là quelques pages, je vous disais la fois passée qu'Alphonse Daudet avait fait exactement la même chose, revenant sur sa carrière. Alors, ses grands succès, c'est Romain Calbris, qui date de 1869, livre peut-être intéressant, mais je suis inquiet de n'en avoir gardé aucun souvenir. Or, j'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas celui d'avoir une mauvaise mémoire. Donc ça devait être un peu terne. Sans famille en 1878, alors c'est un succès tapageur. Et puis, en 93, il écrivit En famille. Et ces trois livres, surtout les deux derniers, Sans famille et En famille, sont tout de suite mis entre les mains des enfants. Alors moi qui suis un enfant du lycée républicain, je me souviens, n'est-ce pas, que lors des distributions de prix, on nous donnait assez volontiers une édition allégée, enfin un peu réduite, de « Sans famille » ou de « En famille ». Mais je n'étais pas content quand les éditions étaient abrégées. Notamment, dans la bibliothèque verte, il y avait les Trois Mousquetaires 20 ans après, des contes de Brun Jeune, mais amputés. Et je m'étais laissé dire qu'il y avait dans l'original des pages très précises sur les amours de D'Artagnan et de Madame Bonacieux, ou sur la nuit que D'Artagnan passe avec Milady, et qu'il y avait là, n'est-ce pas, des pages évidemment censurées par les bons professeurs républicains qui nous fabriquaient des lectures sur mesure. Donc je me précipitais sur en les empruntant dans les bibliothèques, sur des exemplaires complets, avec le texte intégral. Alors, ces romans sont tous pleins de bons sentiments, mais pas seulement. Ces romans pour adultes. Hector Malot avait, peut-être parce qu'il avait atteint l'âge adulte en 1848, lors de la Révolution, et aussi parce qu'il était issu d'une famille libérale et voltairienne, il avait des préoccupations sociales. Alors dans ses romans, alors vous me direz comme Zola, oui, mais sans le génie de Zola, comme Zola, comme plus tard sur un autre bord Paul Bourget, comme beaucoup plus tard la littérature engagée, il écrit ses romans pour illustrer des thèses. Alors il était partisan de la révision des lois sur le divorce, du coup des facilités de divorce. Il était scandalisé par l'internement psychiatrique des aliénés, des conditions d'internement des aliénés qu'il souhaitait, n'est-ce pas, psychiatrie plus humaine. Il voulait que l'on réformât le statut des enfants naturels. Les bâtards qui étaient livrés à l'assistance publique, jetés en nourrice, abandonnés, et puis qui avaient beaucoup de peine, puisque bâtards, à acquérir un statut social. Bien sûr, il plaide pour une amélioration de la condition ouvrière et pour une libéralisation du droit syndical. Il était lié, vous le disais-je, avec Jules Vallès. Vallès avait participé les armes à la main à la Commune et il était évidemment menacé d'être condamné à mort si on l'arrêtait, fusillé sur place ou condamné à mort ensuite. Et il s'était réfugié à Londres comme quantité de communards. Et Hector Malot lui expédie des mandats à Londres. Vallès a vécu longtemps, n'est-ce pas, aux dépens de la générosité d'Hector Malot. Vallès restera à Londres de 1871, échec de la Commune, jusqu'en 83. Il faudra attendre 83 pour qu'une loi d'amnistie lui permette de revenir en France, où d'extrême gauche, il poursuivra une activité de journaliste, de révolutionnaire. Et c'est sur ces deniers, les deniers d'Hector Malot, que Vallès a dû compter pour faire paraître le livre dont je vous parlerai la fois prochaine, L'Enfant, édité à Londres d'abord, à Bruxelles ensuite. Il était malaisé de faire paraître le livre d'un communard en France, sitôt. Donc vous aviez un écrivain un peu militant, très engagé, sans être franchement anticlérical, il est très favorable à l'école républicaine et souhaite, oui, que l'école républicaine soit la seule qui ait droit de cité en France. Alors, ces romans à thèse ont fait que, puis son succès populaire, ont fait que, par la voie du roman ou par la voie du théâtre, pour les adaptations, tout cela a fait que il a été réputé de son vivant pour être une sorte de disciple, vous voyez, de Balzac, un romancier qui a des idées. Il a été rapproché de Zola, mais on lui reprochait son sentimentalisme et même la mièvrerie de son sentimentalisme. Alors vous voyez que le public populaire, on le voit bien avec le théâtre du XIXe siècle, ne boudait pas les sentiments. Le mélodrame au début du XIXe siècle, ensuite le drame bourgeois, tout cela est ruisselant de bons sentiments. On plaint la veuve et l'orpheline, on s'afflige devant les persécutés de toutes sortes, et à la fin on applaudit quand le héros vient, tel Zorro, secourir la veuve et l'orphelin. Mais Hector Malot en faisait un peu beaucoup, et probablement trop. Il semble cela n'ait pas été démarche, vous voyez, d'écrivain qui se prostitue pour avoir un grand succès populaire. Il semble que telle ait été sa vie sentimentale intime. C'est quelqu'un qui se laissait aller à pleurer, qui avait des émotions, qui les publiait. Donc il n'avait pas ce côté un peu guindé, cette affectation d'austérité de la bourgeoisie intellectuelle du deuxième 19e siècle. C'était peut-être un trop bon garçon. Alors en tout cas, ses succès et puis l'abus de sentimentalité de ses livres lui ont valu beaucoup d'inimitié chez les gens de lettres, les véritables gens de lettres, les mandarins austères. Jules Renard le détestait. Et alors dans le journal de Jules Renard, le 13 juillet 1892, il devait faire paraître à ce moment-là, il est mort en 1907, peut-être faisait-il paraître ses tout derniers romans. Alors Jules Renard note « Liberanos ab Hector Malou ». Je trouve ce mot à la fois très joli et très méchant. Paraphrase du Liberanos que l'on chante lors des obsèques, Liberanos amorté, perpétuant. En juillet 96, Jules Renard note « Et Hector Malou, point d'interrogation. Heureusement, il a eu la générosité de s'arrêter. » Bon, ces mots de Jules Renard ne trahissent pas beaucoup de sympathie. Alors disons que l'œuvre est très abondante, qu'elle ne mérite pas sans doute d'être relue, alors, sauf curiosité particulière pour les écrivains nés sur les bords de la Seine, pour le roman populaire du 19e siècle, on ne sait jamais, dans cette œuvre médiocre, surnage, si j'ose dire, un chef-d'œuvre, à savoir Sans famille. Car Sans famille, à mon avis, reste un très beau livre. Je viens de le relire pour la 10e ou 20e fois de ma vie. À cause de vous et pour vous, et à dire vrai, sans beaucoup d'ennuis. C'est l'éditeur républicain, qui avait dû s'exiler lors du Second Empire, Hetzel, c'est vraiment le même éditeur de Jules Verne, hein, et qui fut aussi l'éditeur d'Alphonse Daudet. Hetzel, dès 1869, demanda à Hector Malou un roman, il lui fournit la thématique, un roman avec des enfants qui parcouraient la France. Alors, c'était déjà le cas avec Romain Calbrice. Vous aviez des enfants privés de leurs parents, errant sur les routes, et ils visitaient par le menu le département de la Manche, pour se promener, n'est-ce pas, dans la Manche, en Calvados. Bon, dans la Manche, et on connaissait des aventures de toutes sortes. Vous aviez, dans la littérature enfantine, on est à l'extrême fin du Second Empire, hein, 1869, dans la littérature enfantine du Second Empire, vous aviez beaucoup de romans où des petits orphelins étaient jetés sur les routes. Si vous connaissez bien Madame de Ségur, je vous le souhaite, son roman L'Auberge de l'Ange Gardien commence par l'errance de Jacques et Paul, deux frères. Leur père est en prison, leur mère est morte, ils n'ont pas un sou, ils crèvent de faim, et ils s'endorment frileusement dans un tas de feuilles mortes sous un arbre. Dieu merci, un autre voyageur, un zouave qui rentre du service militaire, qui est démobilisé, les retrouve et les adopte. Il les conduit à l'auberge de l'ange gardien. Le bon zouave est comme une figure de l'ange gardien, protégeant Jacques et Paul. Madame de Ségur fut très imitée. Il y avait un thème, vous voyez, très présent dans le mélodrame du début du 19e siècle, grand théâtre populaire. Le thème de l'enfant volé. Des bohémiens ont besoin d'enfants pour leur spectacle, pour mendier, et volent des enfants. Alors, vous avez des reflets de cela chez Madame de Ségur. Mais chez ses imitatrices, car ce sont souvent les femmes, qui écrivent des romans pour enfants au XIXe siècle. Vous aviez des romans entiers consacrés à des orphelins traînant sur les routes, connaissant mille mésaventures, et Dieu merci, à la fin retrouvant leurs parents. Leurs parents, vous vous en doutez, possèdent un château. Le petit garçon ou la petite fille est muni d'un nom, d'un beau nom avec une particule. Tout est bien qui finit bien. Je pense à un roman de Madame de Stolz, intitulé « La maison roulante ». C'est un petit enfant de la noblesse vivant au fond d'une province, prétentieux, désagréable, un peu sot, plein d'insubordination, qui s'appelle Adalbert. Et ce petit garçon est volé par des bohémiens. et après quelques mois de vagabondage dans des roulottes, martyrisé qu'il est par ses voleurs et employeurs, il est bien aise de retrouver le château familial. Son sort, n'est-ce pas, de justesse. La maison roulante, c'est le titre de ce roman, qui fut un roman pour enfants à succès. Et vous avez, n'est-ce pas, dans le mélodrame, dans le roman populaire, en effet, quantité de scénarios où il y a une errance. Alors cela permet de récupérer l'héritage du roman initiatique, c'est-à-dire traîner sur les routes, et en allant d'expérience en expérience, que peu à peu l'on se forme. Et puis, tout au bout du voyage, il y a peut-être, alors, ou la perdition, dans le cadre à un beau, ou bien le salut. L'enfant retrouve ses parents, pour conquérir une sagesse. Vous voyez aussi, sur les routes, Fantine avec Cosette, dans Les Misérables de Victor Hugo. En 1877, vous aurez alors le chef-d'œuvre de cette sorte de littérature qui a été réédité, parce que le livre intéresse beaucoup les historiens des mentalités et les historiens de la pédagogie. C'est Le Tour de France de deux enfants. Ça vous dit quelque chose qui fut signé G. Bruno. Alors c'était le nom de plume de la femme d'un professeur de philosophie de la Sorbonne, Fouillé. C'est apparu en 1877. Ce sont deux petits Alsaciens qui ne veulent pas devenir prussiens après que l'Alsace a dû être cédée à la Prusse. Donc ils quittent clandestinement, leurs parents sont morts pendant la guerre de 1870, ils quittent clandestinement leur petit village qui est au nord de l'Alsace, passent clandestinement la frontière, et sont à la recherche de cousins alsaciens qui pourraient les employer. Ils sont très jeunes, ils ont 14-15 ans. Et cette épouse d'un professeur de philosophie, qui s'y connaissait en pédagogie, leur fait parcourir absolument toute la France. Et c'est beaucoup plus amusant de lire, parce qu'il y a des péripéties, il y a des aventures, des rencontres. À la fin, n'est-ce pas, résolument français, ils retrouvent leur famille. Et bien sûr, ils s'engageront dans l'armée française pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Bon, le livre est un livre de patriotes. Mais c'est beaucoup plus intéressant à lire que n'importe quel livre de géographie. Et l'auteur décrivait très bien les grands monuments de la France. On allait de ville en ville, on s'arrêtait, on était informé sur les célébrités locales. Et c'était captivant. C'est un peu ce que va faire le petit Rémy, parcourir la France. Dans ce livre, qui eut beaucoup de succès, Fouillé était un philosophe laïque en Sorbonne, donc évidemment, n'est-ce pas, la Ligue de l'enseignement et les syndicats de l'enseignement ont fait la popularité de ce livre, qui était distribué comme prix dans les écoles, mais Madame Fouillé n'était pas folle, elle voulait faire de l'argent, donc elle a produit, toujours sous son pseudonyme littéraire, Bruno, elle a produit une version cléricale. Dans la version républicaine, les petits enfants vont à Reims, pas un mot sur la cathédrale et les couronnements des rois. On va à Chartres, il n'est question que du blé de la Beauce, rien sur la cathédrale. Dans la version cléricale, on nous parle, n'est-ce pas, à Rouen de Jeanne d'Arc. Et il est question de Don Rémy. Donc il y a une version pour les curés, une version pour les laïcs. Quelle époque que celle-là. Notre Hector Malot, il avait conçu son livre pour sa fille Lucie. À l'époque, Lucie a 10 ans. Il le lui dédicace à Lucie Malot. Pendant que j'ai écrit ce livre, j'ai constamment pensé à toi, mon enfant. Et ton nom m'est venu à chaque instant sur les lèvres. Lucie sentira-t-elle cela? Lucie prendra-t-elle intérêt à cela? Lucie, toujours. Ton nom prononcé si souvent doit donc être inscrit en tête de ces pages. Je ne sais la fortune qu'il aurait réservée, mais quelle qu'elle soit, elles m'auront donné des plaisirs qui valent tous les succès. La satisfaction de penser que tu peux les lire, la joie de te les offrir. Signé Hector Malot. Donc ouvertement, n'est-ce pas, le livre est pour des enfants de 10 ans. Moi j'ai l'édition Folio Junior, ce texte intégral, avec les illustrations du 19e siècle. qui sont intéressantes de l'illustrateur, c'est Bayard. Bayard est probablement le meilleur, outre Gustave Doré, qui illustra de Madame de Ségur les nouveaux contes de fées. Mais beaucoup d'autres romans, comme il est 20 romans de Madame de Ségur, beaucoup ont pour illustrateur Bayard. C'est lui, il y a Bertal et il y a Bayard. C'est lui qui a représenté, si mes souvenirs sont exacts, les petits diables de carton rouge qui sont collés sur les fesses du bon petit diable pour épouvanter sa cousine quand elle veut le fouetter. La cousine est une Écossaise superstitieuse qui a peur du diable. Donc elle retrousse le kilt de son neveu pour le fouetter, son cousin pour le fouetter, et elle voit des faces grimaçantes de diable. Et Charles a la bonne idée en même temps, n'est-ce pas, de gratter des allumettes au phosphore, donc ça sent le phosphore, et la cousine, épouvantée, s'évanouit. Ainsi, il échappe au fouet. Alors ce livre, ouvertement écrit pour une petite fille de 10 ans, est en effet, n'est-ce pas, un livre pour enfants, et plein de pathétiques. On peut hésiter devant la phrase que je viens de proférer, elle n'est peut-être pas recevable. Je vois que beaucoup d'écrivains pour enfants, les meilleurs d'aujourd'hui, je pense à Mario de Muraille, ces écrivains-là pratiquent à l'égard de leur petit lecteur l'ironie, et quelquefois une ironie très acide, se plaisent à les provoquer et tournent en dérision les bons sentiments dont les parents, quelques figures ridicules des parents, sont les porteurs. Je viens de lire avec passion, je sais que parmi vous, certaines aiment beaucoup cet écrivain contemporain pour enfants, le dernier roman énorme de Mario de Muraille. Je ne sais pas s'il est encore en librairie, c'est un roman policier se passant au Havre, c'est absolument captivant. J'ai prévu à mon programme de vous parler de son chef-d'œuvre, Miss Charity, la vie transposée de Bess Potter. Alors, vous avez ici beaucoup de pathétique, si vous êtes critique, vous direz du pathos. On s'imaginait le pédagogue de ce temps, et probablement les psychologues, les parents aussi, s'imaginaient que les enfants étaient épris de bons sentiments, surtout les petites filles. Je n'en suis pas sûr. Ayant moi-même, comme vous en doutez, été enfant, très tôt j'ai aimé les livres qui tournaient en dérision les bons sentiments, du moins qui en traitaient avec ironie. Et j'avais l'impression, n'est-ce pas, que les beaux sentiments, les flots de larmes, les élans du cœur, les pâmoisons, que tout cela était démodé ou, je dis le mot, un peu trop bourgeois pour être honnête. Je préférais des livres non pas cyniques, mais un peu plus durs, un peu plus secs. Alors ici, on est servi, vous avez le thème mirobolant de l'enfant martyr. L'enfant trouvé, ici, le petit Rémy. Le petit Rémy est quasiment vendu par son père nourricier à Monsieur Vitalis. Ben, il est vendu à Vitalis par son père nourricier, Barberin. Le père Barberin, qu'il avait trouvé tout petit, abandonné à l'île de Breteuil, ne l'avait pris que parce que ce nouveau-né était dans des langes en tissu particulièrement fin et brodé, mais sans aucune marque d'origine, les étiquettes avaient été détachées. Il s'est dit que cet enfant avait sûrement de riches parents et que si les parents veillaient à le retrouver, lui-même, qui a recueilli l'enfant, il gagnerait des sentiments vulgaires. Vous avez un autre, non pas un orphelin, mais un enfant, car Rémy se croit orphelin. Et vous avez un autre enfant vendu, c'est le petit Mathia. Vous aviez, alors la chose est absolument historique, ce n'est pas une fiction romanesque, vous avez une surnatalité en Italie du Nord, mais également dans le Sud, mais dans le Piémont, surnatalité, donc des familles pauvres surchargées d'enfants vendaient leurs enfants à un parent ou à un ami qui lui habitait quelques villes du reste de l'Europe, et ce parent ou cet ami, cet exploiteur d'enfants, se chargeait, n'est-ce pas, ayant acheté l'enfant, se charger de lui donner une vague éducation, d'en faire un musicien forain, un saltimbanque, un danseur de cirque, un mendiant professionnel, etc. La chose était connue, et vous aviez, même à l'intérieur de la France, des endroits surpeuplés, c'était le cas du Jura au XIXe siècle, et les familles se débarrassaient d'enfants trop nombreux, on les confiait à des espèces d'entrepreneurs, oui, à pied ils montaient à Paris, et ils devenaient rameneurs. Il fallait être petit, agile, leste, pour se faufiler, n'est-ce pas, à l'intérieur des conduits de cheminée, dans les immeubles parisiens, et donc les petits jurassiens, les petits savoyards, étaient rameneurs. On avait besoin, dans les débits de boissons et les commerces de charbon, de main-d'œuvre. Alors là, c'est l'Auvergne. Le surplus de population enfantine de l'Auvergne montait dans les grandes capitales, à Lyon, à Paris, et travaillait. Il n'y a pas, à l'époque, c'est pas aucune loi interdite de faire travailler un enfant à 10 ans. Donc, travaillait dans les débits de boissons, les bois et charbon. Tous les bois et charbon, je suis en partie originaire du Pays Basque. Et au Pays Basque, au XIXe siècle, il y a une surnatalité. Si parmi vous, certaines connaissent le Pays Basque, vous devez être frappé par le fait que beaucoup d'églises offrent à l'intérieur des tribunes. Toute la population masculine s'entasse. On a dû bâtir des tribunes parce qu'il y avait trop de population. Et les petits-enfants montaient à Paris pour devenir d'abord les aides des sacristains, et ensuite sacristains. Tous les sacristains des églises parisiennes sont basques au XIXe siècle. Et il en reste encore quelques-uns dans les églises de Paris. On est sacristain de père en fils. Les Basques étaient un pays très catholique, très pieux. Donc cela faisait de bons sacristains. Alors ils devenaient aides sacristains, c'est-à-dire enfants de cœur quasi professionnels. De temps en temps, monsieur le curé leur donnait un sou, qui était envoyé, bien sûr, à leurs parents ou à leurs grands-parents. Alors vous avez le petit Mattia, petit italien plein de génie musical, enfant souffreteux au début, qui Dieu merci cesse de recevoir des coups, donc va pouvoir poursuivre sa croissance et devenir un musicien professionnel admirable. Le petit Mattia a été vendu par ses parents, alors cette fois un exploiteur particulièrement cruel de petits enfants. Il est à la tête de Sieur Garofoli. Il est à la tête d'un réseau italien installé à Paris, un réseau de mendiants qu'il martyrise. Vous trouvez des enfants mis au travail tôt et trop tôt. C'est le cas à Vars. Alors Vars doit être le pseudonyme qui désigne la Grande Combe. La Grande Combe, c'est à côté d'Alès, dans les Cévennes. C'était une mine de charbon. Et il y avait, en ce temps-là, des entreprises industrielles très importantes. C'est la première ligne de chemin de fer français, la première, hein, et va de la Grande Combe à Alès, avant même le Paris-Saint-Germain-en-Laye. Les Parisiens s'imaginent que la première ligne, c'est la leur. Pas du tout. Et cette ligne de chemin de fer était à intérêt exclusivement industriel, pour écouler le charbon de la Grande Combe vers Alès, où il y avait des usines de métallurgie. À Vars, on descend dans la mine, c'est tout à fait passionnant, et vous avez un petit ami de Rémi, Alexis, qui est très jeune et qui travaille tous les jours. Alors l'intérêt de faire travailler les enfants dans la mine, avec, n'est-ce pas, des 12, 13, 14 heures de travail par jour, c'est que petit, ils passent dans des galeries, et notamment dans les galeries mal étayées, dont les plafonds baissent progressivement. Et ils poussent les wagonnets de houille, hein, de charbon, vers les puits où il y a les ascenseurs, ou les élévateurs. On va retrouver à Londres toute une famille alcoolique et dépravée, la famille Driscoll, et là, les garçons et la grande fille sont dressés par leurs parents à être des voleurs, pickpockets, et voleurs quasi professionnels. L'argent ne semble pas manquer, puisque les parents sont aussi des voleurs professionnels. Ils volent du linge, des accessoires vestimentaires, etc., qu'ils vont vendre comme des colporteurs pendant la belle saison, hors de Londres. Ils utilisent l'hiver à dévaliser, cambrioler, piller des magasins textiles. Et les enfants sont très tôt, n'est-ce pas, élevés à cela. Vous avez des scènes captivantes. Le retour des petits mendiants à Paris. Ils rentrent pour le déjeuner dans un immonde taudis, une mansarde infecte. Et là, ils sont tenus, n'est-ce pas, chacun, de rapporter 30 sous. Et quand ils ne rapportent, par exemple, que 28 sous, dans mon décité, ils reçoivent 2 coups de fouet. S'ils ne reviennent qu'avec 20 sous, 10 coups de fouet. Et quelquefois, les coups de fouet ne sont pas donnés assez forts, donc le patron en donne davantage, et le patron aime bien cogner sur la tête des enfants aussi. Alors non seulement la fustigation, mais encore violence faite sur enfants. Alors le modèle de tout cela, n'est-ce pas, c'est évidemment Victor Hugo, avec les misères de la petite Cosette, le sort désastreux de Gavroche, la condition de Fantine. Le livre avait paru en 1862. Et comme le petit Rémy part avec Mathia en Angleterre, évidemment, il faut songer à Dickens. Dickens a eu un immense succès dans toute l'Europe, a été très tôt traduit. Oliver Twist, 1837, David Copperfield, 1849. D'où des scènes extraordinaires, très théâtrales, la négociation au cabaret entre le père nourricier, le père Barberin et Vitalis pour acheter l'enfant. Comme dans le même roman, le petit Rémy plus tard va acheter une vache pour la mettre dans les tables de sa mère nourricière, mère Barberin, qui elle est toute générosité, on a l'impression, n'est-ce pas, qu'on négocie un enfant exactement comme on peut négocier une vache. Vitalis s'assure, n'est-ce pas, que l'enfant a des dents au bon état, comme le fait quand vous achetez une vache. Je ne sais pas si vous achetez souvent des vaches, des bovins. C'est pas simple, hein. On se laisse plus d'une fois gruger. Vous avez la scène épouvantable où Rémy surprend pour la première fois celui qui va devenir son ami, le petit Mathia. Voilà le portrait, n'est-ce pas, du petit Italien qui a été vendu par ses parents, un exploiteur d'enfants à Paris. C'était un enfant d'une dizaine d'années. Je fus si vivement frappé de son aspect étrange que je le vois encore devant moi. Il n'avait pour ainsi dire pas de corps, et sa tête grosse et disproportionnée semblait immédiatement posée sur ses jambes, comme dans ces dessins comiques qu'ont été à la mode il y a quelques années. Cette tête avait une expression profonde de douleur et de douceur, avec la résignation dans les yeux et la désespérance dans sa physionomie générale. Ainsi bâti, il ne pouvait pas être beau. Cependant, il attirait le regard et le retenait par la sympathie et un certain charme qui se dégageait de ses grands yeux mouillés, tendres comme ceux d'un chien, et de ses lèvres parlantes. Alors l'enfant est accroupi près du feu et devant une marmite. Je m'approchais de la cheminée pour me chauffer, et je remarquais que cette marmite avait quelque chose de particulier que tout d'abord je n'avais pas vu. Le couvercle, surmonté d'un tube étroit par lequel s'échappait la vapeur, était fixé à la marmite, d'un côté par une charnière et de l'autre par un cadenas. J'avais compris que je ne devais pas faire de questions indiscrètes sur Garofoli, c'est l'exploiteur, enfin. Mais sur la marmite, pourquoi donc est-elle fermée au cadenas? C'est, répond Mathia, pour que je ne puisse pas prendre une tasse de bouillon. C'est moi qui suis chargé de faire la soupe, mais le maître n'a pas confiance en moi. Je ne puis m'empêcher de sourire. Vous riez, continua-t-il tristement, parce que vous croyez que je suis gourmand. À ma place, vous le seriez peut-être tout autant. Il est vrai que ce n'est pas gourmand que je suis, mais affamé. Et l'odeur de la soupe qui s'échappe par ce tube rend ma faim plus cruelle encore. Le signor Garofoli vous laisse donc mourir de faim. Si vous entrez ici à son service, vous saurez qu'on ne meurt pas de faim, seulement on en souffre. Moi surtout, parce que c'est une punition. Vous voyez ce supplice de Tantale, que de surveiller une marmite, lui, à la soupe du déjeuner, d'en sentir le parfum et d'en pouvoir manger. alors qu'on est évidemment sous-alimenté. La scène est superbe. Et vous trouverez, qui vous arrachera des larmes aussi, le petit Arthur Milligan, qui a l'âge de Rémi, qui a une dizaine d'années, mais qui souffre quasi depuis sa naissance d'une maladie qui n'est pas très bien précisée, que les médecins réussissent très très mal et à définir et à soigner. Et cet enfant est obligé de vivre attaché sur une planche. Alors il est vrai, n'est-ce pas, qu'il a une mère très affectionnée, très affectueuse, issue de la grande aristocratie richissime de l'Angleterre, et que donc cet enfant est fisté sur sa planche, sur un bateau, avec une véranda qui parcourt les canaux du sud de la France, le climat lui est favorable. Mais vous avez les misères d'un enfant malade. Vous avez un autre personnage, cette fois une petite fille, Lise, la fille d'un jardinier cultivant des fleurs aux portes de Paris. Cette petite fille a subi quelques traumatismes et sans être sourde, ni pour autant folle, ni abrutie, elle a perdu la parole, elle est muette. La parole lui reviendra merveilleusement grâce au petit Rémy dans la suite du roman. Il est question de la condition épouvantable des enfants qui poussent les bennes de houille dans les mines de Vars, par exemple. Bon, donc le thème de l'enfance martyre est ici très très présent et forcément très émouvant. Le livre aussi prêche de bons sentiments dans la mesure où c'est un livre manichéen. Il paraît, n'est-ce pas, que les enfants, on nous le dit, nous le répète encore aujourd'hui, que les enfants aiment les situations bien tranchées. Ils n'aiment pas les personnages qui seraient ambigus. Je vous avoue n'avoir pas du tout des souvenirs d'enfance de cette sorte. J'aimais au contraire des personnages qui balançaient entre le mal et le bien, qui étaient composites, qui avaient une histoire. Vous allez me dire, se dessiner une vocation de professeur de lettres, c'est possible. Dans le roman d'Hector Malot, vous avez bien rangé, n'est-ce pas, les figures malfaisantes et les figures bienfaisantes. Alors, vous avez Maman Barberin, la nourrice du petit Rémy, qui a un cœur d'or. Sa seule faiblesse, elle redoute son mari. Et son mari, Jérôme Barberin, est un personnage fort peu sympathique, intéressé, égoïste. On est bien aise d'apprendre en cours de roman qu'il meurt. Bon débarras. Paris, et meurt à l'hôpital. Vous trouvez l'admirable et adorable Madame Milligan, la mère du petit Arthur, l'enfant infirme, qui va se révéler être la mère de Rémy plus tard, car Rémy est anglais, comme il ne paraît pas, et vous avez, elle est veuve, Madame Milligan, Arthur a perdu son père, et vous avez le frère de son père, donc le beau-frère de Madame Milligan, qui est un ignoble anglais, cupide, qui fait tout, n'est-ce pas, pour récupérer l'héritage. Donc, il y a tout intérêt à ce que Rémy reste Rémy sans retrouver ses parents, et qu'il y ait quelque chose dans la solitude de Rémy, et il y a tout intérêt à ce qu'Arthur, son neveu, meure. Et malheureusement, Rémy retrouve sa mère, et Arthur guérit. Donc, M. Milligan rate son coup. Madame Milligan est une jolie anglaise, distinguée, un peu nonchalante, avec un regard plein de mélancolie et de douceur. Monsieur Milligan est un horrible anglais avec de longues dents jaunes et pointues. Bon, avec ça, vous êtes servi. Vous avez deux personnages de forains achetant des enfants et les utilisant. Vitalis, qui se révèle être un père adoptif et un initiateur génial pour le petit Rémy. La première impression est atroce puisqu'il abandonne sa creuse natale, son paysage familier et sa mère nourricière pour partir comme déporté avec Vitalis. Vitalis lui réserve de très bonnes surprises, si bien que nous sommes désolés d'apprendre sa mort, de le voir mourir de froid à Paris. Et à l'opposé, Garofoli, l'exploiteur italien, le maître de Mathias, qui est une ordure. Père adoptif après la mort de Vitalis, du petit Rémy, Monsieur Aquin, le cultivateur des portes de Paris, l'homme qui plante, qui vend des fleurs. Monsieur Aquin accueille l'orphelin et, oui, le petit garçon perdu dans le froid parisien, l'accueille de façon paternelle et l'intègre à sa famille. À l'opposé, le prétendu père anglais de Rémy, l'abominable voleur Driscoll, avec toute sa famille, fait le pendant à la première. Alors, Driscoll est un voleur cynique. Son épouse est une alcoolique chronique. Le père de ladite épouse est un vieux sourd et méchant. Sourd, méchant, paralytique. Et chaque fois que Rémy s'approche de lui, il crache sur lui. Voilà, un grand-père aimable. Bon. Et les enfants, il y a une grande fille, une petite fille et deux garçons. Il y a quatre personnages qui sont tous haïssables. Ils méprisent Rémy, ne veulent pas de lui comme frère, même s'il n'est pas véritablement leur frère. Et tous pratiquent la moquerie cruelle, le vol, etc. Ces personnages sont très bien organisés de façon caricaturale. Les malheurs qui tombent sur les personnages, alors vous avez des séries de malheurs presque en boule de neige. Barberin, ouvrier, voilà, maçon, comme il y en avait tant dans la Creuse. Il a quitté sa société beaucoup en ce temps-là. Il y a une surpopulation en Creuse, en Corrèze, en Lozère. Ces gens qui savaient admirablement travailler la pierre montent construire sous le Second Empire Paris, Lille, Cherbourg, Lyon, Saint-Étienne, etc. Ils montent travailler à Paris, laissant femmes et enfants dans la ferme, dans la métairie familiale. Et ils envoient leurs gains à leur épouse. Ils ne reviennent que des 2 ou 3 ans. Dans le cas de Barberin, il a eu un accident du travail, il est dans son tort, puisqu'il n'a pas respecté les règlements, donc pas d'indemnité. Il plaide, évidemment il perd, contre l'employeur, tant et si bien qu'il revient escroqué et ruiné à la ferme familiale. Il faut donc vendre la vache, lors du retour de l'éclopé, et il n'a plus un sou, il vend Rémy, au plus offrant. C'est-à-dire à Vitalis. Vous avez un grand malheur qui s'abat sur Vitalis, l'iniquité d'un policier. C'est à Toulouse. Il veut donner une représentation. Il a un singe savant, joli cœur. Le policier a une gesticulation, une emphase assez abusive. Le singe mime la gestuelle du policier. Le policier pense à très mal. Les flics détestent qu'on se moque d'eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces gens-là manquent totalement d'humour. Le plus souvent. Moyennant quoi, le policier, ne sachant se venger sur le singe qui est agile, donne une bourrade ou une claque au petit Rémy. Vitalis est indigné de voir un adulte rudoyer un enfant et s'interpose. Il va faire 3 mois de prison pour cela. Vive la police. La police toulousaine. Donc c'est une scène révoltante. Ensuite, malheur s'égare dans une forêt, la forêt de Troncée, s'égare deux des chiens savants de la troupe de Vitalis, dévorés par les loups, dont le froid, le singe liqueur, attrape une pneumonie et on meurt. Vitalis lui-même meurt de faim, d'épuisement, de vieillesse aussi, et de froid devant les carrières de pierre de Gentilly, aux portes de Paris. Rémy, recueilli par le cultivateur de fleurs, le bon monsieur Aquin, mais la grêle ravage les plantations de monsieur Aquin, ruiné, il est enfermé dans l'actuel 17e arrondissement, près de la porte de Clichy. Il est enfermé pour dette, en prison, rue de Clichy. Et on descend dans le Gard, à Alès. Rémy a envie de voir ce qu'est une mine. Coup de chance pour lui. Il va en sortir vivant, mais de justesse. À ce moment-là, une catastrophe minière a lieu. La mine est inondée. Et puis, en Angleterre, c'est l'horreur, la justice, la raideur de la justice britannique. Dieu merci, ont réussi à organiser une évasion. Rémy est secondé par Mathia et par un ami de Mathia, un Anglais efficace, Bob. Et on va réussir, comme dans Tintin, à fuir l'ingrate police et l'injuste justice. Donc vous avez, n'est-ce pas, des catastrophes innombrables qui s'abattent sur les personnages. Et j'éprouve aussi que, pour ces bons sentiments, vous avez une espèce de complaisance, alors suspecte peut-être, d'Hector Malot à représenter les malheurs qui injustement accablent l'innocent. Et vous direz que c'est un thème très biblique et évangélique. L'agneau de Dieu qui est martyrisé. L'injuste sort du juste. Alors vous avez, n'est-ce pas, l'accident de travail absurde, les villageois malveillants, la police qui fait mal son travail, le sergent de ville incompétent, l'hostilité qui suit l'enfant trouvé, l'enfant perdu, l'enfant sans nom, etc. L'animosité des Anglais pour les Français. Tout cela, n'est-ce pas, est tant autour du personnage de Rémy, une espèce de réseau de forces, voyez, mauvaises, malsaines, redoutables. Et alors, Hector Malot décrit des paysages. Vous avez plus d'une fois de beaux paysages, mais lugubres. À l'est, c'est représenté, nommé Vars, est représenté comme une ville ayant poussé trop vite, du fait du développement de l'industrie. Par moment, on se croit, n'est-ce pas, dans des villes du Far West, que le cinéma ou que la bande dessinée a popularisé. Vous avez des masures, des maisons mal bâties, pas d'urbanisme, à la moindre pluie, dans cette vallée très étroite, la rivière déborde, la poussière de charbon. Alors l'été sèche, l'air est irrespirable, vous remplissez vos poumons, c'est pas de poussière de charbon. L'hiver sous la pluie, le beau noirâtre vous colle aux pieds. La mine est évoquée comme une espèce de monde, en effet, infernal, tel ou tel quartier parisien. Alors les enfants de Sieur Garofoli sont stockés dans une mansarde dans le quartier de Saint-Médard, en bas de la rue Mouffetard. C'est aussi misérable que tel ou tel paysage parisien, boulevard Saint-Marcel, évoqué par Victor Hugo dans les Misérables. La Creuse, pas natale. Il est né à Paris, Rémy, mais il ne le sait pas. La Creuse, d'où commence son périple, aussi, n'est-ce pas, le paysage est d'une austérité très triste, paysage pauvre. Lors de ses pérégrinations avec Vitalis, il est épouvanté, n'est-ce pas, de la pauvreté de ce paysage, de sa monotonie. Il traverse à pied, il va de Bordeaux à Pau. Donc il est obligé de traverser les Landes. Et cela advient avant que Brémontier, sur les conseils de Napoléon III, n'ait planté dans les Landes le pin, que vous savez. Donc ce sont des Landes marécageuses. Et la nuit tombe, il y a une espèce de lune blafarde, et tout d'un coup, le petit Rémy, qui est monté sur une butte, croit voir un monstre qui l'agresse. Et il en est d'autant plus horrifié que le monstre parle. À contre-jour sur la lune, et ce monstre est simplement un berger des Landes huché sur des échasses. Oui, la même chose est racontée par Théophile Gautier dans son voyage en Espagne, qui est très antérieur. Ça devait être un topos. Hein? Carlos Montes de Théophile Gautier, qui a traversé aussi les Landes. Les environs du sel, en Corrèze, c'est donné, n'est-ce pas, comme un paysage particulièrement ingrat. La Champagne que l'on traverse, que les enfants traversent aussi, est hideuse. les bas quartiers de Londres sont absolument épouvantables, dignes de ce que vous trouvez chez Dickens, avec des enfants dégénérés, des parents alcooliques, des haillons, de la boue, des animaux malsains partout, et la pénombre. Alors, comme de juste dans cette littérature, le final doit compenser toutes les misères que nous avons parcourues. Alors, le final est euphorique. Rémi a retrouvé sa mère. On est débarrassé du beau-frère ignoble qui convoitait l'héritage. Mathia, l'enfant à la tête de macrocéphale, a retrouvé une morphologie humaine et fait une brillante carrière de violoniste, carrière internationale de violoniste. Rémi a grandi, Arthur, son frère, est guéri, et Rémi a pu épouser Lise. Lise, la petite Lise, qui est certes roturière, mais merveilleusement intelligente, douce et jolie, dévouée, a retrouvé la parole. Donc tout le monde est guéri, les échecs, les angoisses sont oubliés, et Rémi organise dans son beau château en Angleterre, le manoir familial, il organise des retrouvailles. Mathia vient avec sa fiancée, lui avec sa femme et sa mère et son frère reçoit, son frère Arthur éprouve un faible pour Christina, la petite sœur de Mathia, on fait venir de Corrèze la vieille nounou, mère Barberin, tout le monde est là, et c'est le triomphe, vous voyez, de la vertu, de l'honnêteté, du bon cœur, de la générosité. Faites. Donc, les lecteurs en sont enchantés. Il faut dire un mot, n'est-ce pas, du style, hein, pas seulement un mot, du style d'Hector Malot. Il avait beaucoup pratiqué le feuilleton. Ce qui est nouveau, comme chez Alexandre Dumas et chez d'autres, ce qui est nouveau, n'est-ce pas, d'excellentes fins de chapitre. On a envie de lire, le monde n'y est pas, n'est-ce pas, le à suivre qui caractérisait les feuilletons. Je prends le premier chapitre. Un bâton heurta le seuil. Puis aussitôt la porte s'ouvrit brusquement. Qui est là ? Demanda la mère Barberin sans se retourner. Un homme était entré, et la flamme qu'il avait éclairée en plein m'avait montré qu'il était vêtu d'une blouse blanche et qu'il tenait à la main un gros bâton. « On fait donc la fête ici, ne vous gênez pas, » dit-il d'un ton rude. « Ah, mon Dieu !» s'écria mère Barberin en posant vivement sa poêle à terre. « C'est toi, Jérôme ?» Puis me prenant par le bras, elle me poussa vers l'homme qui s'était arrêté sur le seuil. « C'est ton père. » À suivre. C'est ton père. Et des fins de cette sorte, vous en trouvez un certain nombre. Alors, le livre avait paru deux tomes. Fin du premier tome, Vitalis est mort, le père Aquin est en prison pour dette, lui-même, Rémi, n'a plus qu'un chien, Capi, capitaine, réduit en Capi, mais il sait jouer de la harpe et chanter. Donc il va tout seul, avec son chien savant, tenter, n'est-ce pas, une carrière de forain. Il passe la bandoulière de sa harpe sur son épaule. Allons, Capi. Le chien avait compris qu'il sauta devant moi en aboyant. Je détournai les yeux de cette maison où j'avais vécu 2 ans, où j'avais cru vivre toujours, je l'ai portée devant moi. Le soleil était haut à l'horizon, le ciel pur, le temps chaud. Cela ne ressemblait guère à la nuit glaciale dans laquelle j'étais tombé de fatigue et d'épuisement au pied de ce mur. Ces 2 années n'avaient donc été qu'une halte, il me fallait reprendre ma route. Mais cette halte avait été bienfaisante, elle m'avait donné la force, et ce qui valait mieux, encore que la force que je sentais dans mes membres, c'était l'amitié que je sentais dans le cœur. Je n'étais plus seul au monde. Dans la vie, j'avais un but, être utile et faire plaisir à ceux que j'aimais et qui m'aimaient. Une existence nouvelle s'ouvrait devant moi, j'évoquais le souvenir de Vitalis, et je me dis en moi-même, en avant. Avanti. En avant. C'est la fin du tome 1. Avec un tel final, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous ruer sur le tome 2. Bon, en avant. Donc il savait la technique, vous voyez, du feuilleton, de l'effet de suspense. Très peu souvent, ceci est raconté par Rémy, c'est un récit à la première personne, après qu'il a vécu tous ses malheurs et qu'il a conquis le bonheur. Très peu souvent, Rémy informe son lecteur d'une possible suite. Alors quelquefois, il vous dit « je croyais ceci, mais je me trompais, la suite vous le prouvera bien ». Donc c'est une espèce d'effet d'annonce, mais qui ne dévoile pas abusivement la suite de l'intrigue. Et vous avez, à l'opposé, n'est-ce pas, de ces très rares projections vers le futur, vous avez bien davantage de rétrospection. Rémy compare sa situation présente à ce qu'il a vécu un mois, deux mois, trois mois, quelques années auparavant. Moyennant quoi, la trame chronologique et les liens de cause à effet qui s'opèrent dans le roman sont très très bien ménagés. C'est un livre bien fait, bien construit, bien structuré. Rien n'est oublié de ce qui importe et qui a été rapporté auparavant, et tout est ménagé pour que le lecteur ait envie de tourner les pages et de se précipiter avec Rémy vers un avenir qui, si faire se peut, sera plus heureux que tout ce qu'il connaît et subit au jour le jour. Donc il y a, à mon gré, n'est-ce pas, une très bonne technique des petits résumés, des petits bilans de la situation. Alors Rémy est un garçon qui est muni d'un cœur bon, donc il n'est pas vindicatif, il est disposé à pardonner, mais il est confronté à de tels brutes, à des gens tellement infects, qu'il ne peut pas oublier les traitements qu'on lui a infligés. Donc sans en vouloir, vous voyez, sur le mode de la haine à ceux qui l'ont martyrisé, il se remémore des ignominies qu'il a pu subir, sans du tout un esprit de haine ou de revanche. Et comme le roman nous dit que grandissant, il s'améliore, c'est un roman d'apprentissage de la vie, il entre, n'est-ce pas, dans l'amélioration morale de Rémy, de ne pas perdre le souvenir de toutes ses expériences antérieures. Vous pourriez cela advient souvent, n'est-ce pas, dans le roman d'aventure. Le héros est une tête brûlée, ou d'une extraordinaire jeunesse, que je vous souhaite, et il vit au jour le jour. Il oublie tout. Alors, le résultat sur le lecteur, c'est que le livre lui inflige, c'est délicieux, un constant dépaysement. On va d'aventure en aventure. Bon, c'est souvent le cas des héros des romans picaresques, qui ont une mémoire faible. Après avoir été échaudé une fois, deux fois, trois fois, je me méfierai et je n'entreprendrai pas cette nouvelle aventure. Mais le roman picaresque a besoin d'être long. Il faut que les chapitres s'entassent les uns après les autres. Donc le héros picaresque n'a pas une mémoire très précise de ses déconvenues antérieures. Moyennant quoi, il se jette, peut-être la première, dans une impasse. Et ça vous fait un chapitre supplémentaire. Ce n'est pas du tout le cas de Rémy. Et Rémy, ayant le cœur bon, se souvient aussi des gens qui furent envers lui généreux. Et notamment, il garde le souvenir de sa mère nourricière, la mère Barberin. Il n'oubliera pas, quand il l'a quittée, Madame Milligan, ni Arthur. Ils se sont séparés. Il n'oubliera pas Mathia. Du reste, ils vont se retrouver. Tant mieux. Et voyez que jusqu'à la fin, il garde un souvenir ému de Vitalis. Il fait même, n'est-ce pas, passe commande à un sculpteur pour avoir un buste de Vitalis dans son manoir anglais. On a l'impression, n'est-ce pas, qu'il a érigé une espèce d'hôtel domestique pour le dieu qu'il a patronné. Alors, le livre a beau, n'est-ce pas, être éparpillé en quantité de régions et même de pays, à cause de la sorte de conscience qu'Hector Malo a inventé pour Rémy, le livre en ses parties est très solidaire et se tient. On voyage beaucoup, on commence par la Creuse, le village de Chabanon. Chabanon, ce serait peut-être bourlastique. Avec Vitalis, on part à Ussel, la Bastide Murat, Saint-André de Cubzac, Saint-Émilion, Bordeaux, Langon, Mont-Marsan, Toulouse, Villefranche de Lauragais, Castelnaudary, Carcassonne, Béziers, j'oubliais, n'est-ce pas, après Mont-Marsan, Pau, Toulouse, Villefranche de Lauragais, Castelnaudary, Carcassonne, Béziers, Sète, Frontignan, Arles, Tarascon, Lyon, Dijon, Châtillon, Troyes, Boissy-Saint-Léger, Paris, Villejuif, Corbeil, Montargis, Alès, Mende, Saint-Flour, Issoire, La Bourboule, Le Mondeur, Ussel, Chavanon, on retrouve la mère Barberin, et on lui offre une vache. Aubusson, Montluçon, Moulins, Decize, Châtillon-Auguzet, Paris à nouveau, Moisselles, près de Paris, Boulogne, Beauvais, Montreuil-sur-Mer. Alors Montreuil-sur-Mer, pourquoi passe-t-on par là? Parce que vous vous souvenez que Jean Valjean, déguisé en Monsieur Madeleine, habite à Montreuil-sur-Mer, et même est le maire de Montreuil-sur-Mer. Il va donner asile à Fantine, qui va mourir à Montreuil. Londres, on fuit l'Angleterre, il y a une belle traversée nocturne de la Manche, clandestine, Bayeux, Caen, Rouen, Moret-sur-Loing, Montreux, Joigny, Auxerre, Dreuzy, Châlons, Lyon, Culot, Seyssel, Vevey, et tout se termine sur les bords du lac de Genève, à Vevey. Et à la fin, on est en Angleterre, à Mellingham Park, qui se trouve dans la belle campagne anglaise, à l'ouest de Londres. Alors, le trajet, n'est-ce pas, pour un enfant qui a coûté lui un livre de géographie, aujourd'hui Internet, le trajet est très clair, et est occasion, n'est-ce pas, de faire une espèce de tourisme, mais le point commun, le plus grand commun dénominateur, c'est l'appréhension du réel, présent, futur et passé, l'appréhension de ce monde réel par la conscience du petit Rémi. Et le personnage, me semble-t-il, est tout à fait réussi. Alors, il connaît les règles du métier, il faut, n'est-ce pas, des leitmotivs, bien sûr, pour tisser des fils supplémentaires à l'intérieur du roman. Alors, vous avez le seul des animaux domestiques de Vitalis qui survit, le chien Capi, qui semble d'ailleurs increvable. Capi passe son temps, depuis le début jusqu'à la fin, à réconforter Rémi en lui donnant un coup de langue sur le visage. C'est trop si vous aimez vous laisser lécher par les chiens. Ces sortes de scènes sont très fréquentes. Vous avez apprise, lorsqu'il était tout enfant, des lèvres de Vitalis par le petit Rémi, une chanson napolitaine. Cette chanson napolitaine, on la chante, on la rechante d'étape en étape, aussi bien elle fait partie du spectacle. C'est une chanson mélancolique, belle et douce, et c'est en chantant cette chanson que Rémi, sans le savoir, va infliger à Lise, la petite fille muette, un nouveau choc qui va débloquer sa parole. Je vois certains visages hilares. En effet, ces scènes sont célèbres. À la fin de son roman, il tombe à l'eau à donner musique et paroles de cette chanson, la solitaire. Vous avez d'autres traits, n'est-ce pas, de cette sorte, revenant régulièrement et rythmant, à mon avis, assez heureusement, le roman. Hector Malot sait aussi, parce qu'il a lu Victor Hugo, et Zola, il sait aussi bâtir des très grandes scènes. Alors, vous avez, petit garçon, cet endroit me passionnait. Peut-être, et pourtant je n'avais pas encore lu Germinal de Zola. Mais le métier de mineur, descendre dans les profondeurs de la terre, cela me paraissait un métier à la fois épouvantable et fascinant. Si j'avais suivi ce penchant, j'aurais fini ingénieur des mines. Mais ce ne fut pas le cas. Alors, les chapitres, n'est-ce pas, sur la mine de Vars, c'est-à-dire d'Alès, sont si remarquables qu'ils furent bel et bien imités par Zola dans Germinal. Zola s'était targué, n'est-ce pas, de connaître la mine de l'intérieur. Oui, il avait pris un train qu'il avait mis dans une mine du Pas-de-Calais. Il était descendu quelques heures. Il en était remonté. Mais, alors, Zola avait une mémoire extraordinaire et avait le génie de la documentation intelligente. Donc il avait énormément lu d'ouvrages écrits par des ingénieurs, vous voyez, par des littératures de vulgarisation sur la mine, d'où l'impression de véracité que donne Germinal. Mais il s'était fondé, n'est-ce pas, sur la description. Germinal se passe dans le Nord, là nous sommes dans les Cévennes, la description d'Hector Malou. Alors, Hector Malou lui-même s'était inspiré d'un ouvrage en son temps célèbre d'un certain Louis-Laurent Simenin, La vie souterraine. Ça venait de paraître en 1867. Et ce fut, ce sera, n'est-ce pas, pour Zola, Germinal date de 85, ce sera une des sources de Zola. La mine de où Rémy fait sa visite, elle est inondée suite à des pluies diluviennes en surface qui se déversent dans un ancien puits de mine. Pour la catastrophe advenue dans une mine, le livre que Zola et que Hector Malou ont l'un et l'autre utilisé, c'est un roman, en réalité, une étude de spécialiste, d'un certain Maurice Talmer, qui avait paru en quelques années auparavant, intitulé Le Grisou. Alors, ce n'est pas un coup de grisou. On nous parle, n'est-ce pas, dans la mine d'Alès, on nous parle de la possibilité d'un coup de grisou. Chez Zola, c'est l'origine de la catastrophe de Germinal. Alors, ces scènes souterraines sont, à mon gré, remarquablement ménagées. J'aime aussi beaucoup, je trouve très réussi, l'original, les scènes où ce bateau de plaisance sur lequel était aménagée une véranda, où est couché, attaché sur une planche, le malheureux petit Arthur, on descend très lentement pour occuper l'enfant le canal du Midi et l'on va de Toulouse vers la Méditerranée. Alors vous avez, les illustrateurs sont donnés la cœur joie, c'est sur les bords du canal se trouve Rémy tout seul avec sa harpe et le bateau s'arrête. Il veut faire connaissance de Madame Ménégan et du petit Arthur. Et vous avez, je pense que dans les films et les téléfilms, cela peut être remarquablement donné, vous avez cette très lente descente d'un canal sur le bord duquel se trouve un beau paysage méridional. Le fait est que le pays est superbe. On est en bas de la montagne noire et on file vers cette scène extraordinaire aussi, alors digne, un peu d'un roman fantastique, tempête de neige, Vitalis et Rémy, affamés et épuisés, en pleine nuit, veulent se réfugier dans des carrières, des accès de carrières, les carrières de Gentilly. Gentilly est aux portes de Paris. C'est là où furent prises toutes les pierres de Notre-Dame, s'il vous plaît. Au Moyen-Âge. Vitalis connaît les lieux et dans la pénombre, pire que la pénombre, dans la ténèbre, avec le petit Rémy comme explorateur et messager, il s'avance vers l'ouverture d'une de ces grottes dans lesquelles il y a la carrière. Et Rémy trouve l'ouverture de ces grottes murée. Les carrières sont désaffectées et le propriétaire en a muré l'accès. Donc impossible, n'est-ce pas, de se mettre à l'abri de la nuit et de la neige et du froid. Et Vitalis meurt de froid dans un terrain adjacent. Alors une marche nocturne vers ce qui doit vous permettre un abri, soudainement, n'est-ce pas, vous trouvez la paroi prise, faite avec des moellons, bien cimenté, c'est remarquablement fait. Vous trouvez des portraits, alors des portraits piquants, pittoresques. Le beau-frère de Madame Ménégan a une sale tête, la tête de l'emploi. tableau collectif La famille Driscoll, avec la mère blonde aux cheveux filasses, sans teint, sans réaction, prostrée sur une table, dormant sur elle-même la moitié de la journée, alcoolique. Et elle boit tellement qu'à la fin, n'est-ce pas, elle bascule, et tombe dans la cheminée et prend feu, et meurt. Buvez, mademoiselle, mais pas à ce point-là. Attention, Vitalis est un personnage très pittoresque aussi, avec un habit fait pour attirer la curiosité. C'est un forain qui donne des représentations sur des places publiques, donc il a un petit chapeau pointu, une culotte avec courte, avec des bas, des rubans, etc. Et Vitalis redouble de prestige auprès du lecteur et auprès de Rémy, qui pressent qu'il y a un mystère de cette identité. En effet, n'est-ce pas, ce fut un chanteur d'opéra en Italie, de renommée extrême, et un jour il perdit sa voix. Et ne voulant pas être humilié par des échecs sur scène, il est disparu, changé de nom, et il s'est fait montreur d'animaux de salon. C'est pire que de tomber, n'est-ce pas, d'une scène d'opéra au niveau d'une piste de cirque. Il tombe encore plus bas. Vous avez dans ce livre, alors qui peut paraître un peu pesant aujourd'hui, voire un peu ridicule, vous avez, s'il vous plaît, un peu de didactisme. J'évoquais le livre de Madame Fouillet, Le Tour de France des deux enfants. Alors ici, n'est-ce pas, vous avez vue panoramique du port de Bordeaux, petit topos sur le canal du Midi, avec son architecte de Louis XIV, Riquet. Vous avez la remontée de la Tamise, depuis la Manche jusqu'à Londres, avec une description précise. Elle est moins poétique que chez Dickens. Ah oui, dans les grandes espérances, les bords humides, marécageux de la Tamise où se cache le bagnard. Bon, là, ce sont des informations. Vous apprenez ce qu'il y a lieu de savoir sur la mine, comment on en y descend, comment on en remonte, comment elle est aérée, le traitement du charbon, etc. Vous avez, si la chose vous intéresse, et si vous aimez l'Angleterre et les romans anglais, vous avez beaucoup d'informations sur les troupes errantes de musiciens en Angleterre, pour Noël ou lors de la saison de villégiature sur les plages anglaises, avec ces musiciens anglais qui se colorent entièrement au cirage. En Europe continentale, on se maquille au plâtre, à l'italienne, et en Angleterre, on se barbouille en noir. Le jazz a pénétré ainsi la société anglaise à la fin, au début du 20e siècle. Donc vous apprenez beaucoup de choses sur les contrées que traverse Rémy. Et puis dans le scénario, vous avez, n'est-ce pas, tout d'un coup des trouvailles. Il fut inspiré, Hector Malot, un musicien errant. Je le trouve admirable, je l'ai déjà dit. Je le trouve merveilleux que l'instrument dont joue le petit Rémy soit une harpe. Jouer d'une harpe sur les bords du canal du Midi. Jouer de la harpe dans les rues de Londres. D'autres instruments sont en jeu. La flûte, la cornemuse, etc. Mais Mathias, lui, joue du violon et d'autres instruments, notamment de cuivre. Le petit Rémy joue de l'harpe. Je trouve également très bien rencontré par Hector Malot l'idée de ce bateau pour malade chronique, enfin, un enfant presque paralysé, ce bateau avançant lentement sur le canal du Midi. C'est une trouvaille, mais un peu enfantine, mais Rémy a le bon cœur d'un enfant. Il veut faire plaisir à sa mère nourricière. Que lui faire? Le mari est détestable, du reste il est loin, et même il va mourir. Bon débarras. Que lui manque-t-il? Ce qu'elle est obligée de vendre quand Rémy est parti, une vache. Que va-t-on donc faire? On va acheter une vache, c'est très coûteux, n'est-ce pas? Alors vous avez toute une série d'aventures et de mésaventures à propos de la vache. Deux petits garçons se promenant avec une vache à pied, les paysans s'imaginent forcément qu'ils ont volé la vache. Donc, des arrestations, etc. Mais cette idée, n'est-ce pas, de payer une mère nourricière avec une vache, bon, alors, tout ceci revient à des compliments. Mais vous pouvez être gêné par la perspective narrative qui a été adoptée par Hector Malot. Ce sont des mémoires. Et le mémorialiste écrit bien sûr à la première personne, mais il est devenu un adulte très cultivé, très raffiné, maître de soi, bienfaisant, etc. Et il est obligé d'écrire comme s'il était le petit enfant qu'il fut. Donc tantôt vous avez des phrases résolument enfantines et très vraisemblables, et tantôt vous avez des jugements d'adultes, qu'évidemment Rémy ne peut pas encore porter, sur la situation. Donc il y a une espèce, et ce n'est pas un amalgame très réussi. Tantôt l'on se dit, Rémy, personnage, écrit singulièrement bien, ben non, c'est Rémy adulte qui écrit, et qui se souvient. Et tantôt l'on se dit, malgré le fait qu'il ait 12, 13, 14 ans, Rémy n'a pas beaucoup de maturité. On est dans un, vous voyez, dans un mélange raté de style petit garçon et de style, si j'ose dire, grand garçon. Autre grief que l'on peut adresser à Hector Malot, mais comme à Alexandre Dumas, comme à Eugène Sue, comme à bien d'autres, sans arrêt, il va à la ligne. C'est un tic de feuilletoniste. Je vous ai lu quelques endroits, je n'ai pas marqué des alinéas. Il y en a quantité. Donc il était payé à la ligne. Vous trouvez des redites. Or, l'intrigue reste simple et tout est fait pour tout nous expliquer progressivement. Le lecteur n'a pas besoin de telle redite. Donc, je suis malveillant et je me dis que payé à la ligne, il fait, si vous me permettez le mot, du remplissage. De temps en temps, vous avez des tours oraux et négligés et carrément un peu vulgaires. Alors vous me direz, il écrivait pour le grand public, certes, mais c'est invraisemblable puisque Rémy a eu la révélation de son identité. Adulte, c'est un aristocrate anglais. Il appartient à la gentry et vit dans un château d'un luxe incomparable. Donc il n'est pas normal que ici ou là, n'est-ce pas, il y ait des vulgarités. Défaut de style. Tout le temps arrive l'adjectif auquel vous vous attendez. Le regard d'une mère est évidemment un regard tendre. Quelqu'un qui pratique la charité a évidemment un geste bienveillant, etc. Donc ce sont des clichés. Et parfois, vous avez une espèce de délayage. Si vous êtes de tempérament un peu sec, porté à l'ironie ou au cynisme, vous vous plaindrez de retrouver dans ce livre tous les stéréotypes du mélodrame. La quête de l'identité perdue, la guérison miraculeuse, l'échec des méchants, le voyage initiatique. Si vous n'aimez pas les animaux, c'est mon cas, je l'avoue, vous serez gêné par des scènes qui, paraît-il, plaisent beaucoup aux petits-enfants d'aujourd'hui, des scènes de sympathie de l'animal vers l'homme et de l'homme vers l'animal. Alors je vous parlais du chien Capi qui tout le temps lèche le visage de son bon maître Rémy, mais il y en a bien d'autres scènes de cette sorte. Et notamment des amours entre le petit Rémy et la vache, prénommé Roussette, c'est un peu curieux. Bon, vous trouverez aussi que tout est bien qui finit bien, que la chose finit peut-être un peu trop bien, pour être honnête, pour être vraisemblable. Alors, ce livre a été très illustré, oui, mais même sans les illustrations, je pense que de lui, à ce titre, c'était une réussite. De lui, on retient un certain nombre d'images. Moi, je me souviens, je garde l'image de Monsieur Vitalis, le montreur, n'est-ce pas, d'animaux savants, tenant dans son gilet le petit singe savant joli cœur. Je me souviens de l'entrée des carrières de Gentilly murées. Je me souviens des bas-fonds de Londres. Je me souviens du paysage désertique de la Corrèze. C'est un livre, n'est-ce pas, qui frappe l'imagination, il en reste des images très très présentes. Alors vous trouvez des naïvetés, bien sûr, quelques maladresses. Le petit personnage de Rémy me semble réussi. C'est un enfant, il est candide, mais il est curieux, il est honnête, mais il est perspicace, il est innocent, mais il a de la mémoire, il est martyrisé, mais il ne perd pas l'espoir, etc. Alors, si vous aimez les animaux, vous serez comblé, n'est-ce pas? Il y a une vache, il y a trois chiens, il y a les bons chevaux qui tirent les wagonnets sur le charbon à la surface de la mine, et vous avez des scènes sur des espèces de connivence entre l'homme et l'animal, l'animal et l'homme. Cela peut séduire au moins certains, pas moi. Mais je me souviens, n'est-ce pas, que dès mon enfance, l'on me disait, les psychologues disaient, on le répète aujourd'hui encore, que tous les enfants aiment les animaux. Et qu'on saurait bien élever un enfant sans le mettre en contact avec des animaux. J'objecte, n'est-ce pas, que j'ai toujours eu la plus sainte horreur des animaux. Je me ferais beaucoup, n'est-ce pas, la société de mes petits amis et même de mes petites amies, que je trouvais beaucoup plus intéressant et intéressante que des animaux. Auprès d'un chat, d'un chien, d'un cheval, d'une vache, je m'ennuie. Non. Alors cet aspect du livre peut séduire, peut également irriter. Mais plus intéressant que les animaux, c'est le petit Rémi. C'est un livre, attachant. La semaine prochaine, on va tomber, n'est-ce pas, cette fois franchement dans l'horreur. Un enfant martyrisé par une mère abominable, comme il en existe.